Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site rl.fédération-anarchiste.org.
Rocío en las manos, rocío, aguadas del cielo, tierra mía y solo la inmensa marea, las estrellas soles, no bajes cediendo al árbol que tanto te amo, lo que fue, fue para siempre, lo que queda son las raíces que se asoman transparentes, tus flores ya dan sus colores. Se asoman transparentes, tus flores ya dan sus colores. Los labios del sueño, olvido de palabras, los dedos del viento. Soy el árbol del que eres sol. Rocío en las manos, rocío, aguadas del cielo, tierra mía y sola, la inmensa marea, las estrellas soles, no dejes sediento al árbol que tanto te ama, lo que fue, fue para siempre. Quedas son las raíces, no dejes sediento al árbol que tanto te ama.
Bonjour. Je voudrais m'excuser par rapport à l'émission précédente. Il en restait une demi-heure. Je lui ai coupé la chic à contre-cœur parce que l'émission « Science en liberté » de Thierry Laudet, dont c'est ni le jour ni l'heure, mais ce n'est pas grave, on s'en fiche. On est sur Radio Libertaire. Eh bien, elle est absolument passionnante. C'est mon émission préférée. Pardon pour les autres, mais c'est vrai. Et j'aurais peut-être compris ce qui m'atteint là, où j'arrive plus à respirer la nuit, où j'arrête pas de tousser. Enfin bref, j'espère que je vais pouvoir parler correctement. Parce que si au moins c'était le Covid, eh ben, je saurais ce que j'ai. Mais là, non, c'est pas ça. C'est testé négatif. Donc, bon, Flemmardise et réveille-mots, là, ne trouble pas ma sieste. Nous sommes, je ne sais même plus quel jour, tellement j'arrive plus à dormir. Nous sommes le 4 janvier, je crois bien. Enfin, c'est aux environs du 4 janvier 2023. Et c'est sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Nous allons parler aujourd'hui de Marion Zimmer Bradley, une nouvelle extraite des Voix de l'espace, une nouvelle datant de 1955. Et c'est donc de la fantasy. Et le disque Pierrick Pédron, 50-50. Pourquoi Pierrick Pédron? Parce que je trouve ce disque assez excellent. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Pierrick Pédron, alto sax. Sullivan Fortner, piano. Larry Grenadier, basse. Marcus Gilmore, drums. C'est un disque qui dure 49 minutes. Je vais essayer de le passer intégralement. Et ça s'appelle 50-50 New York Sessions. Et ça a été enregistré par un ingénieur du son qui s'appelle James Faber et qui explique qu'il a enregistré directement en deux pistes. Et ça, c'est comme si on était en vrai dans un concert. Moi, j'aime beaucoup ces façons d'enregistrer plutôt que par petits morceaux, chaque instrument rajouté. Là, c'est du naturel, si on peut employer ce mot stupide, naturel. Donc, Pierrick Pédron et Marion Zimmer Bradley. Les voix de l'espace, et celui dont je vais vous parler tout de suite, ça sera La vague montante. C'est une longue nouvelle. La vague montante, Marion Zimmer Bradley. À la seconde près, grâce au chronomètre de bord, grâce aussi au bourdonnement presque imperceptible émis par l'écran avertisseur, Ryan Kearns sut quand les limites de tolérance du champ gravitationnel avaient été atteintes. Il s'accorda une marge de sécurité d'une bonne dizaine de secondes. C'était un jeune homme à l'esprit pratique et méthodique. Il lui avait fallu 12 ans pour s'entraîner à cette tâche et il l'avait pratiquée pendant 4 ans et demi. Il détacha enfin les courroies de sa couchette. Un berceau semblable à un nid qui se balançait librement et où il s'était tenu allongé, attentif au seul mouvement, au seul bruit de ses complexes instruments de contrôle. Comme une mouche, il se déplaça patiemment, centimètre par centimètre, le long de la paroi, puis, en se retenant à une poignée, il tourna vers l'extrême gauche un commutateur bien particulier. L'imperceptible bourdonnement s'arrêta. Brian Kearns venait de se mettre lui-même au chômage. Il attrapa le marqueur qui pendait de la chaîne attachée au livre de bord, empêcha la feuille de flotter et d'une écriture rapide et experte, il y écrivit de la main gauche. 167e jour de voyage. Vient juste de couper les propulseurs interstellaires. Nos calculs étaient corrects. Il semble que cet arrêt n'ait provoqué aucune perturbation visible. Nous nous trouvons à présent à 23 000 km de Mars. Je cède le commandement du vaisseau à... Et il jeta de nouveau un coup d'œil au chronomètre et il continua d'écrire. 814 heures. Position. Il ajouta encore une série de chiffres compliqués, griffonna ses initiales, puis appuya sur la touche d'appel de l'intercom. Une voix rude, quoique lointaine, répondit de l'autre bout du vaisseau, presque à 1 kilomètre de distance. « C'est vous, Kearns ?»« Oui, Caldwell. Prêt à mettre en marche les réacteurs atomiques. Brian, les chiffres étaient exacts. Tous les calculs semblent corrects, dit Brian avec raideur. Les commandes ont été coupées suivant les plans préétablis. Youpi ! S'écria la voix dans le haut-parleur. Et Brian fronça les sourcils avec un toussotement réprobateur. La voix lointaine sembla retenir un juron, mais sans qui, avec plus de décorum. « J'attends vos ordres, commandant Kearns. »« Parfait, commandant Caldwell, » dit Brian. « Le vaisseau est à vous, à partir de... » Il s'interrompit, regarda de nouveau le chronomètre et dit après quelques secondes « Maintenant !» Il éteignit l'intercom et son regard fit le tour de ce poste de contrôle dans lequel il avait passé le plus clair de son temps pendant le long voyage du Homeworld. Les monstrueux propulseurs interstellaires étaient à présent silencieux. Leur grondement sourd s'était tu et seules les parois métalliques dressaient devant lui leurs surfaces insensibles, immuables. Brian éprouva une curieuse sensation de vide tout en enfermant marqueurs et livres de bord dans leur case. Et, accroché à la poignée, il se demanda s'il n'avait rien oublié, tout en sachant avec la conviction d'une longue habitude qu'aucun détail n'avait été omis. Il est impossible de hausser les épaules en apesanteur. Ce simple mouvement vous envoie voler à travers l'espace et Brian était bien trop entraîné pour se laisser aller à de tels gaspillages d'énergie. Mais son sourcil se souleva un peu et une ombre de sourire soulagé passa sur son visage. Un instant, pendant que personne ne pouvait le voir, il sembla presque aussi jeune qu'il l'était réellement. Puis, en reprenant l'expression grave qu'il arborait toujours en présence de son équipage, il remonta avec lenteur le long de la paroi, détacha méthodiquement de son réceptacle sa paire de sandales de plastique, les chaussa avec l'aisance de l'habitude et se glissa dans le sas en iris qui menait à la partie supérieure du gigantesque vaisseau interstellaire. Il fit une pause, engagé jusqu'à mi-corps dans le diaphragme en expansion du sas, le regard perdu dans l'étroit passage cylindrique qui s'ouvrait devant lui. Il pouvait à présent percevoir la légère vibration indiquant qu'à l'avant lointain du Homeworld, les réacteurs atomiques s'embrasaient. Il se permit un nouveau sourire avec le secret dédain du spécialiste en hyperpropulseur envers les moteurs atomiques, malgré leur nécessité. Puis, il s'extirpa complètement du sas et d'une détente du pied contre le diaphragme qui s'était refermé derrière lui en claquant, il se propulsa comme une flèche en ligne droite, sans poids, le long du passage. Tout au bout, il freina, les mains en avant, s'arrêta. Il y avait une sorte de miaulement musical derrière lui. Le chat du bord, plus exactement, un mammifère du centaure aux allures de kangourou nain. Le chat du bord arriva dans sa direction en culbutant follement à travers les airs. « Brian, attrape-le !» cria une jeune voix de femme. En passant sa sandale dans une poignée, il tendit un bras et réussit à attraper la bestiole par l'une de ses maigres pattes. Elle se mit à piailler en se débattant, tandis que la jeune fille répétait d'une voix anxieuse « Tiens bon, j'arrive !» Elle se propulsa le long du passage et s'empara prestement de la bestiole qui s'apaisa bien vite en se nichant sous son menton. « Il s'est affolé quand les réacteurs se sont mis en marche » murmura-t-elle sur un ton d'excuse. « Les vibrations, sans doute, ou quelque chose comme ça ?» Brian lui sourit. Elle était petite et mince, ses cheveux blonds flottaient étrangement autour de sa tête et sa tunique courte, pourtant bien correctement fermée, se gonflaient en vagues curieuses. Ils vivaient tous depuis si longtemps en apesanteur qu'il y prêta à peine attention, mais il remarqua l'inquiétude des yeux bruns. Elinor Wade était docteur en diététique et s'y connaissait encore moins en mécanique qu'Einstein. Le félin d'Alpha du Centaure, c'était le nom qu'ils avaient donné au chat. « Tout va bien, Ellie. Peut-être Einstein a-t-il une âme de technicien interstellaire ? Je viens de couper l'hyperpropulsion et de passer les commandes du vaisseau à Caldwell. » La jeune fille murmura « Mais alors, nous sommes presque arrivés. » Et ses yeux brillaient comme une double étoile de première magnitude. « Oh, Brian !» Il hocha la tête. « C'est Caldwell qui a le commandement à présent. J'ignore ce qu'il va faire. » Mais tu ferais mieux de garder l'oreille bien ouverte pour les prochaines instructions. S'il optait pour un atterrissage sur Mars, il faudrait nous attacher en quatrième vitesse dans nos couchettes pour la décélération. « Brian, j'ai peur !» murmura-t-elle. Le chat qu'elle avait laissé flotter cherchait maladroitement à réintégrer l'abri de sa main. « Ce serait d'une ironie hideuse. » Si ce vieux vaisseau se fracassait en touchant l'atmosphère, après avoir fait tout le voyage vers le Centaure et le retour. « Ne t'en fais pas, lui dit-il avec optimisme. Caldwell décidera peut-être d'atterrir directement sur Terre. Il connaît son boulot. Ellie et moi, je connais le Homeward. » « Je n'en doute pas, dit-elle avec une esquisse ratée de sourire. « Tu es amoureux de cette vieille épave. » Il eut un sourire désarmant. « Je ne prétendrai pas le contraire, mais c'est seulement une passion de remplacement. En attendant de pouvoir te tenir sur la terre ferme. » La jeune fille rougit et se détourna. Les 12 membres qui composaient l'équipage du Homeward étaient tous jeunes et la promiscuité du bord avait donné naissance à des attachements sérieux. Mais hommes et femmes avaient été soumis à une soigneuse ségrégation pour une excellente raison qui n'avait rien à voir avec la morale. Le voyage du Centaure à la Terre, même à des vitesses hyperspatiales, demandait près de 5 années. Et personne n'avait encore découvert de méthodes pour mettre un bébé au monde en apesanteur. Brian libéra sa sandale. « On va au centre ?»« Non !» Elle resta suspendue là. « Je dois nourrir Einstein. » Et Paula se trouve encore dans l'unité alimentaire. Il n'y a pas d'intercom. Je vais aller la prévenir qu'on aura peut-être à s'attacher et je te rejoindrai. « Je t'accompagne, j'ai faim et j'aimerais manger un morceau avant... Non » Non ! La violence de l'intonation le surprit. « Va au centre et je te rapporterai quelque chose à manger. » Il la regarda fixement. « Mais je t'en prie, balbutia Ellie. Paola est en train de se changer. »« Que diable ! » Pris de soupçons, Brian donna une violente poussée contre la poignée et fonça à travers le corridor pour ouvrir la porte de l'unité alimentaire qui n'était pas fermée à clé. Ellie laissa échapper un faible cri d'alarme tandis que, emporté par son élan, il se trouvait projeté en plein milieu de la pièce où deux silhouettes collées l'une contre l'autre sursautèrent et se séparèrent. Paola Sandoval se cacha le visage tout en essayant d'attraper un vêtement pour s'en couvrir, tandis que Tom Mellen se redressait d'une poussée de jambes et adressait à Brian un regard belliqueux. « Fous le camp d'ici » hurla-t-il à l'instant même où Brian demandait d'un ton acéré. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix exaspérée de Paola mordait comme du vitriol. « Je crois que tu peux très bien voir toi-même ce qui se passe, commandant. » Ses yeux noirs lançaient des flammes. Brian implora Ellie en lui posant doucement une main sur le poignet pour le retenir. Il la repoussa d'un geste brusque. qu'il l'envoya promener à l'autre bout de la pièce et dit d'un ton sec « Tu ferais mieux de te rendre à l'avant, Paola. Caldwell aura besoin de quelqu'un pour vérifier les calculs. Quant à toi, Maylin, les règlements, que les flammes des réacteurs foudroient les règlements, et toi avec !» Tonna Maylin, c'était un jeune homme souple et de près de 2 mètres de haut qui paraissait encore plus grand. « Non mais qu'est-ce que tu t'imagines à rouler les mécaniques comme ça ?»« Écoutez-moi bien, » dit Brian, en articulant nettement. Et aux jeunes filles, « Paola, rends-toi immédiatement à l'avant, c'est un ordre. Tom, cette partie du vaisseau est interdite aux hommes, sauf aux heures de repas. C'est la 5e fois, la 6e, commandant, pour être tout à fait exact. » Et si on en croit ton livre de bord, sans compter les 4 où je n'ai pas été pris. Et alors, qu'est-ce que tu crois? Tu n'es rien qu'un sale. Nous laisserons mes habitudes personnelles en dehors de la question, si vous le voulez bien, monsieur Maylin Sandoval. Il se retourna vers Paola. Je vous ai donné un ordre. Elle avait passé un bras autour des épaules de Paola, secouée de durs sanglots. Mais la petite brunette la repoussa, les yeux étincelants. « Tu lui en donneras un de ma part !» Tom lança-t-elle avec amertume avant de quitter la cabine. Brian ajouta avec plus de douceur. « Sors aussi, Ellie. Je vais tout de suite régler cette affaire avec Maylin. » Mais Ellie ne bougea pas. « Brian, » dit-elle avec calme, « le moment est vraiment mal choisi pour faire respecter ce règlement. Aussi longtemps que le Homeward se trouvera dans l'espace, » dit Brian d'un ton sec, « ce règlement particulier, comme tous les autres fondés sur la nécessité, sera respecté. » « Dis donc, » commença Maylin d'un ton furieux. Et puis, il parut suffoqué. Le sang lui monta violemment au visage et il s'élança sur Brian avant que ce dernier ait compris ce qui se passait. « Les réacteurs sont en marche » grinça-t-il. « C'est Caldwell qui commande maintenant. Ça fait 3 ans que j'attends ça. » Brian esquiva un coup d'un bizarre mouvement saccadé et Maylin, emporté par son élan, lui passa au-dessus de la tête. « Brian, Tom !» supplia Ellie en plongeant entre eux pour intervenir, sandales en avant. Mais Maylin le repoussa, pantelant. « Je te préviens, Ellie, sors-toi de là !»« Dis donc !» s'exclama Brian, et Maylin plongea de nouveau sur lui, les 2 mains tendues pour le pousser avec brutalité. Leurs 2 élans se rencontrèrent à mi-chemin. Le choc les renvoya dans des directions opposées avec tant de violence qu'on entendit le choc des crânes contre les parois. Brian, à demi étourdi, se redressa avec peine. Le rire de Maylin emplit la cabine pleine d'une sèche ironie. « Bon, la barbe, » dit-il dégoûté. « Inutile d'insister pour se bagarrer ici et maintenant, mais attends seulement que je te prenne sur la terre ferme !» Brian se frotta la tête en clignant des yeux, mais sa voix résonna avec une froide netteté, sans laisser supposer qu'il voyait encore 36 chandelles. « À ce moment-là, nous n'aurons plus l'occasion de nous battre, puisque je n'aurai plus aucune autorité officielle !» La mâchoire de Maylin se contracta et Ellie intercéda anxieuse. Tom, d'un point de vue purement théorique, Brian a parfaitement raison. Je vous en prie, ne faites pas d'histoire comme ça maintenant alors que nous touchons au but. Ouais, c'est vrai. Un grand sourire se dessina sur le visage de Maylin, un sourire sans arrière-pensée. Et Brian, d'accord, sans rancune? Brian se détourna glacial. De la rancune? Pourquoi donc? C'est mon devoir de faire respecter les règlements jusqu'à ce que le Homeward arrive à bon port. Nom de Mahomona Maylin, à l'adresse du dos rigide de Brian. Et même Ellie parut déconcertée. Puis Maylin fit un geste d'impuissance. Viens, je suppose que Caldwell aura besoin de nous, dit-il d'une voix tendue. Et il se propulsa vers l'avant du vaisseau, à grands bonds, rapides et furieux. Thierryck Pédron, Marion Zimmer Bradley. C'est rare quand je vous lis des histoires de science-fiction. Bon, Marion Zimmer Bradley est la reine de la fantaisie, mais aussi un âge progressif au contact de l'atmosphère avait été mise au point une centaine d'années avant l'envol de l'ancien Star Ward pour la constellation du Centaure. Ellie s'empara du petit animal, l'installa à ses côtés. Tout était silencieux dans la cabine principale. Ils étaient déjà trop habitués à la basse vibrante. Pardon, je crois que je me suis trompée de page. J'ai sauté une page, excusez-moi, je recommence. Je vous conseillerais de regarder plutôt, si jamais ça vous intéresse, d'écouter l'émission en podcast. Si vous ne tenez pas avec ma voix abîmée, eh bien, de regarder sur mon site parce que je retirerai les tout. Voilà, donc, ça sera sur le site Flemmardise et Réveille-moi, ne trouble pas ma sieste. Je recommence. La technique de freinage progressif au contact de l'atmosphère avait été mise au point une centaine d'années avant l'envol de l'ancien Star Ward pour la constellation du Centaure. C'était cependant une expérience nouvelle pour l'équipe du Homeward, un procédé fastidieux qui mettait les nerfs à vif. Seul Brian, attaché dans l'un des berceaux de la cabine principale, était réellement calme. Un calme qui rejaillissait un peu sur Ellie, allongée dans une couchette voisine. Brian Kearns avait commencé son entraînement à bord du Homeward 12 ans avant le début du voyage. Il avait fallu 4 générations à l'équipage naufragé du vaisseau originel, le Star Ward, pour remettre en état les propulseurs hyperspatiaux écrabouillés lors de l'atterrissage et pour arracher assez de Cerberum au sol de la 4e planète du Tela Centauri, il l'avait appelée Terre 2, pour renvoyer vers la Terre un équipage réduit, apportant la nouvelle de leur réussite. 130 années en temps subjectif pour Terre 2, mais compte tenu de la contraction du continuum espace-temps engendré par leur vitesse hyperspatiale, 4 ou 5 siècles de temps objectif avaient fort bien pu s'écouler sur la planète quittée par leurs ancêtres. Ellie contemplait le visage calme de Brian, sa bouche sur laquelle s'attardait un vague sourire intime de satisfaction, en se demandant s'il n'éprouvait vraiment aucun regret. Pendant un instant, elle lutta contre un éclair de nostalgie en se rappelant leur dernière vision d'une petite planète sombre, tournant autour d'un soleil rougeoyant. Ils y avaient laissé une colonie florissante de 400 âmes, un monde qu'ils ne reverraient jamais plus, car si 5 années subjectives s'étaient écoulées pour eux en vitesse hyperspatiale, une vie entière pouvait fort bien s'être écoulée pour tous ceux qu'ils avaient connus sur Terre 2. Les pensées de Brian, elles, allaient de l'avant, sans s'apesantir sur le passé, et il ne pouvait les garder pour lui. Je suppose qu'ils ont dû découvrir une bien meilleure méthode d'accélération sur Terre maintenant. S'ils sont en train de nous observer, ils doivent trouver qu'on ressemble à des vrais fossiles vivants, qu'on est, je suppose. Chez eux, on aura l'air si obsolète qu'on aura l'impression d'être des hommes des cavernes. Je ne sais pas, protesta Ellie, les gens ne changent pas. Ah, mais les civilisations évoluent, insista Brian. Il s'est passé moins d'une centaine d'années entre le lancement de la première fusée vers la Lune et le lancement de Star Ward. Voilà à quelle vitesse peut évoluer une civilisation technologique. Comment peux-tu être sûr qu'ils aient évolué dans ce sens ? Demanda la jeune femme. Tu ne sais pas que c'est lié aux facteurs temporels, remarqua-t-il moqueur. quand chaque génération hérite du savoir de celles qui l'ont précédée, c'est cumulatif. Le progrès se fait de façon parfaitement linéaire au départ du Star Wars Brian. Mais il continuait. D'accord. L'humanité a progressé un peu au hasard pendant des milliers d'années, mais à partir du moment où elle a utilisé des méthodes scientifiques, il lui a fallu moins de 100 ans pour passer du premier avion à la fusée. Une race qui a mis au point les voyages interstellaires ne peut progresser que dans une seule direction. Si on voulait en prendre le temps, on pourrait aligner les chiffres sur une calculette et prédire exactement ce qu'on va trouver. Il me semble que tu laisses de côté l'élément humain, dit Ellie pensive. L'équipage du Star Wars était uniquement composé de scientifiques, choisis pour leur compatibilité, et notre Terre 2 est habitée par la société la plus homogène qui ait sans doute jamais existé. Tu ne peux faire de telles prédictions quand il s'agit d'une planète à population normale. L'élément humain. Mais c'est fini, vous deux, s'écria Langdon Forbes avec irritation depuis sa couchette. J'essaye de ne pas être malade, mais tous ces discours de Cairns sur le progrès, ce n'est pas supportable. Il faut vraiment qu'il choisisse ce moment où on est tous attachés, incapables de lui échapper. Brian grommela quelques paroles inintelligibles et tomba dans un silence morose. Ellie tenta de lui tendre la main avec une difficulté inhabituelle due à la pesanteur, mais il la rejeta. Un gémissement misérable venait de sous la couchette d'Ellie. Einstein, le chat, retrouvait la pesanteur et n'appréciait pas. Elle s'empara du petit animal et l'installa à ses côtés. Tout était silencieux dans la cabine principale. Ils étaient déjà trop habitués à la basse vibrante et régulière des réacteurs pour les remarquer en tant que bruit. Il n'y avait encore aucune impression de mouvement, mais une sensation déplaisante quand l'énorme vaisseau décrivait de larges ellipses comme une comète en folie, effleurant d'abord l'atmosphère une seconde ou deux, pour y pénétrer ensuite quelques secondes, une minute entière, plusieurs minutes, effectuant sa descente en une lente spirale prudente. J'espère qu'ils t'auront trouvé un moyen d'établir une pesanteur artificielle dans les vaisseaux, gémit en riant Judy Kereski du berceau où elle se balançait à l'envers, suspendue à ce qui était maintenant le plafond de la cabine. Ses longs cheveux ondulés lui retombaient dans la figure comme un rideau. Elle était la seule de l'équipage à ne pas avoir une coupe fonctionnelle courte. Elle gémit. Oh, ma pauvre tête, j'ai le vertige. Le vertige et ce pauvre chat alors, plaisanta Ellie. Qui a eu la drôle d'idée d'emmener cet animal de toute façon? Demanda quelqu'un. Contribution des plus valables à la science, dit Judy avec bouffonnerie. Pourquoi n'en as-tu pas pris un couple, Ellie? Brian n'a pas voulu, glissa Marcia von Schrieven avec une certaine amertume. Ellie caressa la fourrure sombre d'Einstein et rappela à Marcia de sa voix paisible. Einstein appartient au troisième sexe de sa race. Dans des conditions adéquates, il se reproduira et donnera naissance aux deux autres. Le vénard, fit Brian à demi-sérieux. Ellie lui jeta un coup d'œil avec un embarras inhabituel en murmurant « Quoi qu'il en soit, Einstein sera unique sur Terre. » « Tu y verras des choses bien plus étranges qu'Einstein, » dit Brian avec désinvolture. « Après tout, nous n'avons jamais vu qu'une seule planète alors que la Terre a dû coloniser tous les systèmes solaires les plus proches. Les terriens doivent être cosmopolites au sens le plus large du terme. À propos de la terre, intervint Langton d'une voix insistante, avant que Brian ait pu enfourcher de nouveau son dada favori, où va-t-on se poser exactement ? On ne le saura pas avant d'avoir contacté la surface, répondit Judy avec irritation, en rejetant ses cheveux en arrière. On a les cartes des premiers, mais c'est impensable que l'ancien spatioport de Denver soit encore en usage. Même si c'est le cas, il serait sans doute tellement différent qu'on n'en saurait pas comment y atterrir. Et ce serait trop encombré pour un vaisseau interstellaire de cette taille en plus. Ah, tu as trop écouté Brian, Jimmy Langton. Selon lui, c'est déjà un miracle de ne pas avoir tamponné la fusée locale en route pour la seconde galaxie. Brian ignora les termes techniques erronés et répondit avec le plus grand sérieux. C'est pour ça que j'avais suggéré un atterrissage sur Mars. Il y a là assez d'espace désert pour se poser sans risquer d'endommager des zones urbaines. Je doute que la population y soit aussi centralisée que... Et alors, justement, pourquoi pas Mars ? Demanda Martia d'un ton vif. Et Langton tourna la tête vers elle avec un froncement de sourcils. On a essayé de contacter la planète par radio. Mais de toute évidence, les signaux n'ont pas été captés. Caldwell et Mélène ont donc opté pour un atterrissage direct sur la Terre, au lieu de perdre du temps à freiner pour en avoir peut-être à repartir après. On a du carburant seulement pour un atterrissage et pour la navette. On aurait sûrement pu se ravitailler sur Mars, commença Brian. Mais il fut interrompu par un tout sautement d'excuses en provenance du haut-parleur au centre de la cabine. « Hey, Cairns !» dit le haut-parleur en crachotant un crachotement. « Interrogateur Brian Cairns, pouvez-vous vous rendre à l'avant ? Cairns, rendez-vous au poste de contrôle avant ?» Brian se renfrogna et commença avec difficulté à se détacher en se demandant à voix haute « Qu'est-ce que Mélène peut bien ?»« Que se passe-t-il » s'écria Judy. « Il a des problèmes ?»« Oh, tais-toi, ordonna Ellie. Si c'est le cas, on nous le dira. » Vaguement inquiète, elle regarda Brian qui se tirait avec maladresse de sa couchette pour tomber brusquement sur le plancher d'une hauteur d'un mètre. Sans toutefois se faire trop de mal. Le centre de gravité est sur l'axe à présent, annonça-t-il à la cantonade sarcastique. Heureusement que je n'étais pas accrochée là où est Judy. Je me serais cassé le cou, il faudrait que quelqu'un la descende. Judy laissa de nouveau échapper un petit cri, mais Ellie la fit taire. Tu n'as qu'à rester où tu es jusqu'à ce qu'on sache ce qui se passe. Inquiète, elle regarda Brian qui rampait à quatre pattes le long de la paroi qui se trouvait maintenant être du côté de l'axe du vaisseau et donc vers le bas. Il se glissa à travers le sas, récalcitrant, ça ne marchait bien qu'en apesanteur, et entra jusqu'à mi-corps dans le poste de contrôle avant. Tom Mellen, ses cheveux courts, tout hérissé, se retourna quand Brian se présenta. On a essayé de les appeler sur toutes les fréquences, dit-il d'un air sombre. Pas de réponse, pas le moindre signal, que dis-tu de ça, Brian ? Brian jeta un coup d'œil autour de lui. Paula Sandoval, attachée devant les instruments de navigation, rentrait la tête dans ses épaules brunes et évitait son regard. Caldwell, le vétéran aux cheveux gris, qui avait réparé les moteurs atomiques, avait une grimace féroce. Mélène était déconcertée sur la défensive. Je vous l'ai dit avant de passer sur Mars et je vous le répète, c'est du temps perdu de les appeler avec tous les moyens de communication du bord, dit Brian. Maintenant, ils utilisent sans doute des appareils tellement plus évolués que la radio ou les modulations de fréquence qu'ils ne peuvent capter nos appels. Leur équipement est trop avancé pour nos grossières machines primitives. Grossières primitives ! Caldwell s'interrompit, s'efforçant visiblement à la patience. Écoute, Cairns, dit Mélène à Brian furieux, il n'y a pas tellement de moyens de transmettre des impulsions électriques. Les premiers pilotes spatiaux disaient que tout carburant devait être chimique ou atomique, non ? Et puis nous, on est tombé sur le Cerberum. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner le jour où le Star Wars est parti pour l'espace. Il est temps de comprendre que c'est nous qui sommes tombés dans le trou de l'espace-temps pendant près de 5 siècles et qu'on est irrémédiablement obsolète. Peut-être, dit Mélène avec lenteur en enfonçant machinalement la touche d'appel. Brian, irrité, éteignit l'émetteur. « Pourquoi insister, Tom ? S'ils avaient capté nos signaux, ils auraient déjà répondu. Avez-vous repéré des fusées en partance ou de retour ?»« Non, pas d'objet de diamètre supérieur à 12 cm depuis qu'on est en orbite, » répondit Mélène. Brian fronça les sourcils. « Où est-on, Paola ?» La jeune fille lui adressa un regard venimeux, mais elle vérifia ses instruments et déclara « En orbite à 65 km d'altitude, vitesse 5,6 mps. » Brian regarda Caldwell. « C'est vous le commandant ?»« De façon bien limitée, » rétorqua Caldwell en lui rendant son regard sans broncher. C'est pour ça que je vous voulais là. Il reste 2 solutions. Ou bien descendre sous la couche de nuages et chercher un endroit pour atterrir. Et si ça se trouve, risquer qu'on nous tire dessus. Ou bien nous mettre en orbite stable et envoyer quelqu'un en éclaireur dans la navette. La navette, décida aussitôt Brian. « Vous vous voyez en train d'essayer de poser un vaisseau de cette taille sans instruction au sol ? Autant qu'on sache, il doit y avoir des règles d'atterrissage. La navette n'aurait besoin que de quelques mètres carrés. Ceux qui descendront en premier pourront repérer un spatioport suffisamment important pour recevoir le Homeward et faire le nécessaire auprès des autorités. « Tu n'oublies qu'une chose, » dit Mélène. Et s'il n'y avait pas de spatioport ? Ah, il doit forcément y en avoir, Tom, protesta Caldwell, même pour les vaisseaux interplanétaires ordinaires. Et Brian ajouta, il est impensable que nous ayons été le seul vaisseau interplanétaire. Ce n'est pas ce que je voulais dire, protesta Mélène. Une des planètes Mars, où la Terre aurait dû recevoir nos signaux. Quelqu'un devrait encore utiliser la radio pour quelque chose, même de façon purement locale. Enfin, s'il y a quelqu'un là, en bas, encore. Brian se mit à rire. « Tu veux dire un désastre qui aurait provoqué une sorte de fin du monde ?» dit-il avec un sérieux sarcastique. Mais Mélène reprit très sérieux, lui. « Quelque chose d'approchant. Oui. »
Mario, dit Mère Patrouille,
Radio Libertaire, flémardise et réveille-mo, ne trouble pas ma sieste, Marion Zimmer Bradley et Pierrick Pédron pour la musique. Malheureuse, je ne me rappelle plus où je m'étais arrêtée tellement. Voilà, j'en étais là. Les propulseurs interstellaires sont arrêtés. Vous ne pouvez rien faire de plus à bord. D'accord, dit Brian laconique, mais il pouvait à peine dissimuler son enthousiasme. Il en oublia même un instant son animosité personnelle envers Mylène. « Je prends Tom avec moi comme radio ?» Caldwell réfléchit et répondit avec un mélange de bon sens et de diplomatie. « J'ai besoin de Tom et de Paola aussi pour assurer l'atterrissage quand le moment sera venu. » Lanton peut s'occuper de la radio, de la navette. « Prenez un ou deux autres membres de l'équipage. » Mélène a peut-être raison, peut-être pas, mais je crois qu'aucun membre de l'équipage ne doit partir seul en éclaireur tant que nous ne saurons pas exactement ce qui nous attend en bas. » Le sérieux de Caldwell n'impressionna guère Brian, mais il réalisa qu'en effet, il aurait besoin de quelqu'un d'autre pour piloter l'appareil. Son propre entraînement l'avait seulement habilité à s'occuper des complexes propulseurs interstellaires. Lanton se tiendrait prêt à appeler le Homeward en cas d'événement inattendu, décidèrent-ils. Ce fut donc Elinor Wade qui prit les commandes du petit stratojet qui avait été conçu pour les transports entre le vaisseau et la surface et utilisé pendant la phase finale des réparations sur le Homeward. Elle laissa l'appareil s'enfoncer dans l'épaisse couche de nuages et demanda « On veut aller où, exactement ?» Lanton se pencha sur la carte soigneusement reproduite. « Judy, la couverte de gribouillis, se plaignait-il. Mais essaye l'Amérique du Nord. À l'ouest, c'est là que les premières fusées ont été construites. Et on parle tous anglais à notre façon. À moins que la langue elle-même ait trop changé, murmura Brian. » Ellie fit décrire un arc rapide au petit appareil au-dessus du vaste paysage étranger. Lorsque les derniers nuages s'écartèrent, Brian et Lanton se protégèrent instinctivement les yeux de la main. Une violente clarté jaune les assaillait. L'éclairage de bord avait en effet été réglé de façon à diffuser la même lumière pourpre et crépusculaire que celle de Terre 2, où ils avaient toujours vécu. Ellie plissa les paupières pour regarder par-dessus le panneau de commande en proférant à mi-voix un juron déplacé dans la bouche d'une jeune fille comme il faut. L'appareil plongea au-dessus des collines et Brian reprit peu à peu son souffle tandis que les rangées d'édifices réguliers se découpaient à l'horizon. Je commençais à me demander si Mélène n'avait pas raison avec ses histoires de désert atomique, dit-il d'une voix tendue. Après ce que nous ont raconté les premiers, je n'ai aucune envie de me fourrer dans le trafic aérien d'un spatioport, prévint Ellie. Essayons de trouver un endroit découvert et de nous y poser. Elle dirigea l'appareil vers le nord de la cité et demanda : L'un de vous a-t-il aperçu un moyen de transport, n'importe lequel, avion, fusée, quelque chose à terre ? Non. « Absolument rien à l'œil nu, répondit Lanton, et rien au radar. Et j'ai pourtant drôlement fait attention. »« Bizarre, murmura Ellie. À cette altitude, tout était très net, et tandis qu'il décrivait des cercles de plus en plus bas, d'autres détails de l'image miniature devinrent visibles. Larges champs cultivés, maisons comme des jouets, groupe de petits édifices. Il semblait y avoir des animaux dans les champs. Lanton sourit. Comme chez nous, dit-il heureux. Il voulait dire Terre 2. Des communautés rurales normales. sauf que tout a l'air d'être vert. Ah ! Dit Ellie d'un ton absent, il y a aussi cette ridicule lumière jaune. Mais Brian eut un rire moqueur. Comme chez nous, prépare-toi plutôt à recevoir un choc, Langton. C'est peut-être toi qui vas recevoir le choc, rétorqua Langton de façon inattendue en scrutant les contrôles par-dessus l'épaule d'Ellie. Le sol est bien plan ici, Ellie. L'appareil rebondit sur le sol et roula doucement. Les doigts de Langton s'agitèrent avec délicatesse sur le clavier de l'émetteur radio pour transmettre un rapport d'une brièveté télégraphique pendant que Brian ouvrait la porte de la carlingue. Des effluves étranges leur parvinrent. Mais tous trois se pressèrent à l'entrée, clignant des yeux dans la lumière aveuglante, avec une soudaine et bizarre répugnance à mettre le pied sur ce sol inconnu. « Brrr, il fait froid !» dit Ellie, frissonnant dans son vêtement léger. Langton regardait autour d'eux, consterné. « Tu t'es posé au milieu d'un champ !» On ne gaspillait pas la nourriture sur Terre 2, plus par habitude que par manque réel. La conquête de cette nouvelle planète n'était pas chose assurée et la colonie ne prenait pas de risques. Ils éprouvèrent tous trois le même sentiment de culpabilité en contemplant les épis noircis. Ellie saisit le bras de Brian. « Quelqu'un vient vers nous ?» À travers les sillons réguliers et les rangées de blé doré, un jeune garçon d'environ 13 ans s'avançait d'un pas ferme, sans se presser. Il n'était pas très grand, l'air vigoureux, le visage bronzé sous ses cheveux noirs coupés au carré. Sa chemise large flottait sur un pantalon rentré dans des bottillons, le tout d'une chaude de couleur brune. Brian lui-même demeura silencieux tandis que le jeune garçon arrivait au pied de l'appareil, s'y arrêtait, levait les yeux, regardait avec indifférence les trois êtres humains à l'entrée, puis se dirigeait du côté des réacteurs encore fumants. Brian lâcha la main d'Ellie et sauta vivement au sol. « Et toi » cria-t-il, oubliant du coup tous les discours préparés. « Ne t'approche pas de là, c'est dangereux, ça brûle !» Le garçon s'immobilisa aussitôt, se retourna, les regarda de nouveau et après un moment dit dans un anglais légèrement altéré pour eux mais parfaitement compréhensible « J'ai aperçu une traînée dans le ciel. J'espérais qu'il était tombé une météorite. » Il se mit à rire, leur tourna le dos et commença à s'éloigner. Ah ! Brian, déconcerté, leva les yeux vers Ellie et Langton. Ce dernier sauta à terre aidant la jeune femme à descendre, tandis qu'elle appelait le jeune garçon. « S'il te plaît, attends un peu !» Le garçon se retourna poliment et devant cette indifférence courtoise, Brian se retrouva sans voix. Ce fut Langton qui finit par dire d'une voix blanche « Où pouvons-nous nous avons un message pour le gouvernement. Où pourrons-nous trouver un moyen de transport jusqu'à la cité ?»« La cité ?» Le garçon le regardait fixement. Pourquoi faire? D'où venez-vous? La cité! Brian reprit la situation en main avec calme. Nous faisons partie de la première expédition à destination du Centaure. Le Starward, nous avons, ou plutôt notre vaisseau, a quitté cette planète il y a des centaines d'années. Oh! Le garçon eut un sourire amical. « Eh bien, je suppose que vous êtes content d'être de retour. » Derrière cette colline, il leur montra, « vous trouverez une route qui mène à la cité. » Et tournant le dos d'une façon qui semblait cette fois définitive, il s'éloigna à grands pas. Les trois voyageurs se regardèrent à la fois abasourdis et scandalisés. Enfin, Brian fit un pas en appelant « Hé, reviens là !» Avec
un geste d'impatience, le garçon se retourna. « Quoi encore ?» Élie dit d'un ton conciliant. « Cet appareil n'est que la navette de notre vaisseau. Il nous faut trouver quelqu'un pour nous dire où le vaisseau peut atterrir. Comme tu peux voir, elle désigna les blés calcinés, les réacteurs ont détruit une partie de la moisson. Notre vaisseau est beaucoup plus grand, nous ne voulons pas causer d'autres dégâts. Peut-être ton père, le visage du garçon, d'abord intrigué, s'éclairait à mesure qu'elle parlait. Mon père n'est pas au village en ce moment, mais si vous voulez me suivre, je vous conduirai à mon grand-père. Si tu pouvais au moins nous dire où est le spatioport le plus proche, suggéra Brian. Hein, le spatioport, répéta le garçon les sourcils froncés. Écoutez, peut-être que mon grand-père pourra vous aider. Il repartit à travers le champ, aussitôt suivi par Longton et Ellie. Brian hésitait en considérant la navette avec inquiétude. Le garçon lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Pas besoin d'avoir peur pour votre appareil. Ah, il est trop gros pour qu'on le vole. Brian se raidit. L'attitude du garçon était juste assez moqueuse pour le mettre sur la défensive. Puis, conscient de la futilité de toute irritation, il se mit à courir pour rattraper les autres. Au moment où il les rejoignit, le garçon était en train de dire d'un ton boudeur. Moi qui espérais avoir la chance de tomber sur une météorite, je ne l'ai encore jamais vue. Puis, avec un effort un peu tardif de politesse, il ajouta. Naturellement, je n'avais jamais vu non plus de vaisseau spatial. Mais il est évident que c'était seulement une bien maigre compensation. Ellie, dans ses minces sandales, trébuchait sur le sol inégal, et ils furent tous trois soulagés d'arriver à une route unie qui serpentait le long d'une haie en fleurs. Il n'y roulait aucune sorte de véhicule, et la route était d'ailleurs juste assez large pour leur permettre de marcher de front. Le garçon allait en tête d'un pas rapide. Sans se rendre compte, peut-être, il les dépassait constamment, mais jetait un coup d'œil par-dessus son épaule et ralentissait. À un moment où il se trouvait quelque peu distancé, Langton murmura « Il est évident que le trafic des véhicules a été complètement détourné dans les districts ruraux. » Brian ajouta de la même voix basse « Tout ça est incroyable. Ou bien ce garçon n'est qu'un idiot du village, ou bien les enfants sont si blasés qu'une expédition interstellaire ne veut plus rien dire pour eux. « Je n'en suis pas si sûre, » dit Ellie pensivement. « Quelque chose nous échappe. N'essayons pas de nous figurer quoi que ce soit à l'avance. Brian, acceptons les choses comme elles arrivent. » Des muscles au repos depuis bientôt 5 ans se rappelaient à eux d'une façon douloureuse quand ils atteignirent les premières maisons basses du village, construites à première vue de pierres grisâtres. Devant presque chaque pas de porte, fleurissaient des parterres de fleurs au complexe dessin géométrique. Des groupes d'enfants jouaient sur les pelouses avec un chant rythmique et monocorde, vêtus de tuniques jaunes foncées ou d'un pâle gris-rose. La plupart des demeures avaient des entrées basses sous des treilles et des femmes en robes légères et courtes étaient assises en petits groupes sous ces porches. La rue n'était pas pavée et les femmes semblaient oisives. La musique de leurs murmures bourdonnait tout bas et les trois nouveaux venus pouvaient aussi entendre un chant en provenance de l'autre extrémité de la rue. Une voix d'homme s'élevait et retombait en suivant un registre plutôt monotone. C'était vers ce champ que le garçon les conduisait.
Ils gravirent les marches d'un porche couvert et non treillissé. Ils franchirent une porte ouverte sur une grande pièce claire. Deux des murs s'ouvraient en volets à lattes horizontales sur un jardin bien tiré au cordeau. Dans un coin, une large cheminée où rougeoyaient des braises, et où une marmite faite d'un métal léger et étincelant se balançait sur un crochet. Brian n'en croyait pas ses yeux. L'anachronisme lui rappelait une image de ses plus vieux livres d'histoire. La forme des autres meubles était tout à fait inhabituelle. Il y avait des sièges bas, garnis de coussins apparemment encastrés dans les murs. Du quatrième côté, il y avait quelques portes fermées. La voix qui chantait, provenant d'une autre pièce, et emplissait la maison. Une voix de baryton aux résonances profondes, une ligne mélodique lente, étrangère. Le garçon appela « Grand-père ». La voix termina l'une de ces bizarres phrases musicales, puis se tut. Des pas lents et délibérés s'approchèrent. Une porte s'ouvrit et un homme âgé de haute taille s'avança dans la pièce principale. Il ressemblait au garçon. Cheveux coupés courts, sauf le long des joues, mais le menton était rasé de près. Chemise et pantalon du même brun chaud, les pieds à l'aise dans des pantoufles de cuir cousu. Les mains étaient brunes et noueuses, très soignées malgré des taches de teinture ici et là. L'homme semblait fort et vigoureux. Il se tenait devant eux, très droit, les enveloppant d'un regard paisible qui promena de leurs cheveux ras à leurs pieds nus dans des sandales de plastique. Petit à petit, un sourire un peu amusé se dessina sur son visage et il s'avança vers eux. Soyez les bienvenus, mes amis. Sa voix était celle d'un chanteur, forte et pleine. Vous êtes ici chez vous. Qui sont nos invités des Stry? Le garçon répondit sans se troubler. Ils viennent d'un vaisseau spatial, grand-père, ou plutôt d'un morceau de vaisseau spatial. La traînée dans le ciel, ce n'était pas du tout une météorite. Ils disent qu'ils veulent aller à la cité, alors j'ai préféré te les amener. Le visage du vieil homme ne changea pas. Brian avait espéré au moins un mouvement de surprise, une émotion, n'importe laquelle, mais l'autre continuait à les observer avec calme. « Je vous en prie, asseyez-vous, » fit-il, aimable. « Je suis Hard Frostbisher, mes amis, et voici mon petit-fils, Destroy. » Ils se laissèrent, tous trois, tomber sur les coussins moelleux d'un divan, un peu avec l'impression de se retrouver enfant au cours d'instruction d'un des premiers. Là, je fais une aparté. Les premiers, on ne sait pas ce que c'est, on essaye de deviner, et c'est avec une majuscule. Seul Brian conserva assez de présence d'esprit pour marmonner leur nom. Brian Cairns, Eleanor Wade, Longton Forbes. Le vieil homme répéta les noms et s'inclina avec courtoisie devant Ellie, qui put à peine dissimuler sa stupeur. Il demanda en souriant « En quoi puis-je vous être utile ?» Brian se leva. « Votre petit-fils ne vous l'a pas dit, monsieur ? Nous faisons partie de la première expédition à destination du Centaure, le Star Ward. » Oh ! Une faible lueur d'intérêt passa sur le visage du vieil homme. « Il y a bien longtemps de cela, ce qu'on m'a dit, » dit-il. « Les barbares avaient-ils donc un moyen de prolonger la durée normale de
de l'existence. Pfff, la patience de Brian, elle avait dépassé depuis un bon moment ses limites habituelles et elle l'abandonna brusquement. « Écoutez-moi bien, monsieur. Nous appartenons à la première expérience interstellaire, la première. Mais aucun de nous n'a quitté la Terre à bord du Starward. Nous n'étions pas nés à l'époque. Nos vitesses hyperspatiales, si vous savez seulement ce que ça veut dire, et je commence à en douter, nous ont projetés dans un temps décalé par rapport au vôtre. Inutile de nous qualifier de barbares. Les propulseurs du vaisseau ont été endommagés au cours de l'atterrissage et il nous a fallu 4 générations, vous entendez, 4 générations, avant de pouvoir les remettre en état pour un voyage de retour. Aucun de nous n'a jamais vu la Terre avant aujourd'hui. Nous sommes des étrangers ici, comprenez-vous? Nous sommes obligés de demander notre chemin. Nous le faisons de manière polie. À présent, si nous pouvions obtenir une réponse polie. Hard Frobisher leva une main apaisante. « Je suis désolée, dit-il, toujours calme. Je n'avais pas compris. Qu'attendez-vous de moi au juste ?» Brian fit un effort visible pour contenir, pour se contenir. « Eh bien, avant tout, nous désirons entrer en contact avec les autorités locales. » Ensuite, j'aimerais trouver un terrain d'atterrissage pour notre vaisseau. Frobisher fronça les sourcils et Brian se tut. Franchement, dit le vieil homme, je ne sais pas qui vous pourriez aller voir pour ça. Il y a plein d'espaces déserts vers le sud, plus près de la cité. Votre vaisseau pourrait y atterrir. Écoutez, commença Brian, mais Langton lui toucha le bras et il demanda seulement si... « Vous pouviez nous dire comment nous mettre en rapport avec le gouvernement ?»« Eh bien, dit le vieil homme d'un ton égal, il y a 3 gouverneurs dans notre village, mais ils ne sont là que pour régler les heures de cours des écoles et celles du couvre-feu. Je ne voudrais pas les déranger pour une chose aussi ridicule. Je ne pense pas qu'ils auraient grand-chose à dire sur votre... sur votre vaisseau spatial. » Brian et Langton restèrent muets. Ellie, avec l'impression qu'ils étaient tous pris dans une toile d'araignée géante, fit une tentative désespérée. « Nous serait-il possible de nous rendre ailleurs, peut-être dans un village plus grand ?» Frobisher les regarda, franchement déconcerté. Carme est à une demi-journée de marche d'ici, mais quand vous y serez, ils vous diront la même chose. Si vous désirez faire atterrir votre vaisseau sur nos terrains en friche, vous êtes les bienvenus. Brian l'interrompit d'une voix belliqueuse. À cet tergiversé, il y a une cité là-bas, il y a bien quelqu'un qui a l'autorité nécessaire. Oh, la cité, ça fait bien des années que plus personne ne vit dans les villes. Pourquoi voudriez-vous aller là-bas ? Monsieur Frobisher, dit Langton, abasourdi, on a fait tout le chemin depuis la constellation du Centaure pour apporter à la Terre des nouvelles de l'expédition. On s'attendait bien à être surpris de ce qu'on trouverait ici. Après tout, il s'est passé bien du temps depuis le départ du Starward. Mais faut-il déduire ? Dans le cercle vicieux où vous nous faites tourner depuis le début de cette conversation, qu'il n'y a personne pour nous écouter, que la première des expéditions interstellaires ne signifie plus rien pour personne. Le devrait-elle ? Demanda Frobisher, l'air encore plus confondu que Brian. Je peux comprendre un peu votre position personnelle. Après tout, vous avez parcouru un bien long chemin jusqu'à nous. Mais pourquoi ? Vous n'étiez pas bien là où vous étiez. Une seule raison pour insister les gens à quitter un endroit pour un autre. Mais il me semble que vous avez poussé les choses un peu loin. Le silence tomba. Hard Frobisher, debout, l'air indécis, contemplait ses invités. Brian s'attendait presque à le voir faire comme Destroy et leur tourner le dos pour s'éloigner sans plus leur porter le moindre intérêt. Mais il s'approcha seulement de la cheminée pour examiner la marmite. « Le repas est prêt, » dit-il. « Puis-je vous inviter à vous joindre à nous ? Une bonne chère peut sembler chose inopportune en pleine dissension, mais il n'y a pas de sagesse dans un estomac vide. » Brian et Langton, assis, regardèrent fixement Frobisher, l'air stupide. Ce fut Ellie qui répondit d'une voix ferme. « Merci, monsieur Frobisher !» Et elle enfonça son coude dans les côtes de Brian en lui murmurant sauvagement « Tiens-toi bien !» Destroy revint et aida son grand-père à servir la nourriture contenue dans la marmite. Autant que d'autres mets apportaient d'autres pièces, il invita les nouveaux venus à s'installer autour d'une sorte de table. Les mets étaient inconnus pour les visiteurs et habitués à la nourriture synthétique du vaisseau, ils ne trouvèrent pas particulièrement bon. Brian, qui n'avait plus une miette d'humour, ne fit presque aucun effort pour dissimuler sa répugnance. Et Langton, plongé dans ses pensées, mangea distraitement. Frobisher et Destroy, en revanche, avaient l'appétit non déguisé de ceux qui vivent au grand air. Ils ne parlèrent guère pendant le repas, sinon pour exhorter leurs invités à manger. Ellie, que ces bizarres aliments liquides et semi-solides fascinaient, les goûta par curiosité professionnelle en se demanda comment on les préparait. Bientôt, Hard Frobisher fit un signe de tête à Destroy et le garçon commença à desservir. Frobisher repoussa sa chaise et se tourna vers Brian. « Nous pouvons maintenant discuter de votre problème, si vous voulez, » dit-il avec amabilité. « Un estomac plein prend de sages décisions. » Il sourit à Ellie. « Je regrette qu'il n'y ait aucune femme dans la maison avec qui vous pouvez bavarder pendant ce temps, ma jeune demoiselle, » lui dit-il. Sur un ton de regret. Ellie baissa les yeux. Sur le Homeward, comme sur Terre 2, hommes et femmes étaient égaux et n'avaient pas à se témoigner la moindre déférence. La galanterie de Frobisher était pour elle chose nouvelle, et le fait qu'il la supposait incapable de prendre part à leur discussion, une surprise assez désagréable. Langton serra les poings et Brian semblait prêt d'exploser. Ellie évalua la situation d'un coup d'œil et intervint vivement en se levant et en disant avec un peu d'hésitation à Destroy « Puis-je t'aider ?» Le garçon sourit. « Bien sûr, venez avec moi, vous préparerez les assiettes et moi la marmite. »« Vous porterez les assiettes et moi la marmite. » Frobisher se cala confortablement sur son siège, prit un petit sac de cuir dans sa poche et alluma sans se presser une pipe d'ambre sculptée qui fit aussitôt réviser à Langton ses idées sur le degré ambiant de civilisation. On fumait aussi sur Terre 2. Seule l'odeur du tabac était différente. Les deux jeunes gens étouffèrent une quinte de toux et refusèrent le sac de tabac, sortant à la place leur cigarette grisaille. Ma quinte de toux n'est pas volontaire, n'a aucun lien avec l'histoire, je vous l'assure. Excusez-moi. Ils sortirent à la place leurs cigarettes grisâtres. Ils en inhalèrent la fumée douce amère avec avidité pour lutter contre la puanteur âcre de la pipe. Quelque part, derrière une porte, il y avait des bruits d'éclaboussures avec la voix au perché du jeune garçon qui faussait par intermittence et le rire léger d'Eli. Brian se pencha, les coudes sur les genoux. « Monsieur Frobisher, dit-il d'un ton carré, je sais que vous faites de votre mieux pour vous montrer hospitalier, mais si vous êtes d'accord, parlons affaires à présent. Nous devons faire atterrir notre vaisseau et ensuite... » Il s'interrompit et regarda le plancher en se demandant soudain s'il ne s'était pas posé par malchance dans une sorte de réserve où l'on parquait les simples d'esprit. Non, la pièce était meublée simplement, mais avec goût. Les meubles de bois teinté étaient bien cirés. Le tapis tissé à la main s'accordait parfaitement avec les épaisses draperies qui encadraient les fenêtres. La maison était confortable, étalait même un certain luxe, et les inflexions de Frobisher étaient même celles d'un homme cultivé. Il n'avait rien d'un original à en juger par ce que Voyan avait brièvement aperçu des autres maisons et des autres habitants du village. Distroy n'avait pas semblé le moins du monde surpris par la navette. Il savait donc ce que c'était, mais cette découverte ne l'avait pas impressionné. Non, ce n'étaient pas des sauvages, mais quelque chose de radicalement différent de ce que Brian avait espéré, et ce changement le laissait désemparé. Il leva les yeux vers l'un des nombreux tableaux qui couvraient les murs, et là, pour la première fois, remarqua une note d'excentricité. C'était pour la plupart des dessins d'oiseaux méticuleusement reproduits, mais seul un fou aurait été capable d'en supporter les combinaisons de couleurs. Brian comprit alors que c'était cette lumière jaune lumineuse inhabituelle qui rendait toutes les couleurs bizarres pour lui, et en même temps, il se rendit compte que ses yeux larmoyaient et picotaient, et qu'il avait un violent mal de tête. Il posa son front sur ses mains serrées et ferma les yeux. « Ce n'est pas que vous ne soyez pas les bienvenus par ici, » dit Frobisher pensif en tirant sur sa pipe. « Comme je disais, une seule raison a pu vous décider à quitter votre planète d'origine. Vous n'étiez pas heureux. Vous comprenez donc ?»« De toutes les suppositions idiotes !» commença Brian furieux. « Mais !» Il se tut de lui-même. Où était sa prudence habituelle ? Après tout, Langton et lui étaient pour l'instant coupés du reste de l'équipage. Il ne pouvait se permettre de risquer des ennuis. Il frotta ses yeux douloureux, puis avec lassitude. « Je suis désolé, monsieur Frobisher, je n'avais pas l'intention de vous enfoncer. » Frobisher le rassura, « Je ne me suis pas offensé. En tout cas, je ne désirais en aucune façon vous offenser moi-même. Me suis-je trompé ?» « Nous sommes venus jusqu'ici pour une seule raison, » lui déclara Langton, « pour apporter notre contribution à la connaissance que l'être humain peut avoir de l'univers hors du système solaire. En d'autres termes, pour achever ce que les premiers ont commencé. » Et Brian conclut d'une voix amère, « Et s'il faut en croire les apparences, nous avons perdu notre temps. » Je le crains en effet. Quelque chose de nouveau dans la voix de Frobisher leur fit lever les yeux. Que vous l'admettiez ou non, je suis tout à fait conscient de vos problèmes, monsieur Kearns. J'ai lu un grand nombre d'ouvrages sur les barres, sur le passé. D'un air méditatif, il tapota le fourneau de sa pipe contre un montant de la cheminée. Je suppose qu'il vous sera impossible de retourner de votre vivant vers le centaure. Brian se mordit les lèvres. De notre vivant, non, pas impossible. Mais du vivant, de tout ce que nous avons connu, en supposant que nous puissions bel et bien revenir, nous n'avons pas beaucoup de réserves de carburant. Il regarda Frobisher d'un air interrogatif. « Alors je ne sais pas quoi faire de vous, » dit le vieil homme. Il avait l'air de se faire du souci pour eux. Il ne manquait plus que cet intérêt pour faire atteindre à Brian son seuil critique. Insensible, à la main que Langton lui appuyait sur le genou, il se dressa. « Écoutez, Frobisher, qui diable vous a donné le moindre droit de prendre des décisions à notre sujet ?»« Le visage du vieil homme demeura impassible. « Eh bien, mais vous vous êtes posé dans mon champ et mon petit-fils vous a amené ici. Moyennant quoi, vous assumez l'entière responsabilité de toute l'affaire? Vous gouvernez la terre ?» La bouche de l'autre s'ouvrit toute grande. « Je gouverne ! Ah ! Ah ! Ah ! Il se rejeta en arrière dans son siège en se tenant les côtes, secoué d'un rire incontrôlable. « Est-ce que je gouverne ?» Il fut de nouveau secoué de hoquets. Son hilarité faisait littéralement trembler le plancher. Elle était si communicative que, en fin de compte, Langton ne put réprimer un vague sourire déconcerté et la fureur de Brian elle-même s'atténua un peu. « Excusez-moi, me dit Frobisher d'une voix affaiblie, les larmes aux yeux, mais c'est la chose la plus drôle que j'ai entendue depuis les semailles de printemps. Si je... Attendez que je dise à mon fils, désolé, monsieur Kearns, je ne peux pas m'en empêcher. Si je gouverne la terre... gloussa-t-il à nouveau. À Dieu ne plaise, j'ai déjà assez de mal à gouverner mon petit-fils. » Il repartit avec un grand rire irrépressible. Brian ne voyait pas du tout ce qu'il pouvait y avoir de si drôle et il le dit avec effort. Frobisher contrôla son hilarité et redevint sérieux, mais pas tellement, en regardant Brian. « Vous êtes venu me trouver, » précisa-t-il. « Voilà ce qui me rend responsable de vous. Je ne suis pas homme à reculer devant mes responsabilités, ni à vous refuser l'hospitalité. Mais franchement, j'aurais préféré que vous tombiez sur quelqu'un d'autre. » Il laissa encore échapper un léger rire. « Je peux déjà voir tout le mal que vous allez nous donner. » Si vous ne voulez pas m'écouter, vous êtes libre de chercher quelqu'un d'autre, mais je crains fort que cet autre vous réponde la même chose que moi. » Il sourit, et son expression d'inquiétude amicale eut raison de la colère de Brian, même si sa confusion et son agacement persistaient. Frobisher ajouta calmement. « Après tout, il n'y a pas de raison que le visage de Norton n'ait pas à résoudre ce problème, pas plus qu'un autre village. » Il se leva. « Les autres membres de votre équipage doivent s'inquiéter à votre sujet, je suppose. Ai-je raison de penser que vous devez avoir un moyen de communication ?» Langton, exaspéré, hocha la tête et Frobisher attrapa un manteau sur une patère. « Eh bien alors, pourquoi ne pas les appeler ? Nous aurons le temps, en chemin, de faire le point. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je vous accompagne ?»« Non. » « Pas du tout, » dit Brian du voix faible. « Pas du tout. » Chapitre 3. Brian avait présent à l'esprit la recommandation faite par Caldwell de ne jamais se séparer. Et il insista pour qu'Ellie revienne avec eux à la navette. Distroy, apparemment peu intéressé, refusa tout apport l'invitation de son grand-père à les suivre, puis changea d'avis. Il courut chercher une veste chaude, mais à leur surprise, au lieu de la mettre, il la posa sur les épaules d'Elie. « Elle a froid », explique-t-il simplement à son grand-père et sans attendre de remerciements, il les devança sur la route. Le soleil descendait vers l'ouest et la lumière était presque insoutenable. Les yeux de Brian le brûlaient et la grimace de Langton lui ridait profondément le front. Ellie avait la main en ouvant sur les yeux et Brian lui passa un bras autour des épaules. « Mal à la tête, ma chérie ?» demanda-t-il avec tendresse. Elle grimaça. « Crois-tu qu'on parviendra à s'habituer à cette lumière ou bien en souffrira-t-on toujours autant ?»« Les premiers ont dû passer par là, je suppose, sous les feux de Theta du Centaure, » remarqua Langton. Ellie eut un léger sourire. « Et personne ne leur a déroulé un tapis pour leur souhaiter la bienvenue. » Choibichère marchait en avant, à longues enjambées, chaloupées, et Brian murmura avec une intonation féroce « Je persiste à croire que tout ceci n'est qu'une sorte de comédie à notre intention. » Ou alors, nous sommes tombés dans une réserve de primitifs. Toute la planète ne peut pas être comme ça, enfin. « Ne sois pas idiot !» répliqua Ellie avec lassitude, tout en frottant ses yeux brûlants. « Qui aurait pu prévoir qu'on allait atterrir là ?» Justement là, sous les porches, quelques-unes des femmes hélèrent familièrement Frobisher. Il leur répondit d'un geste jovial, mais personne ne semblait prêter la moindre attention aux étrangers. Sauf une femme dodue aux cheveux roulés en saucisse sur le crâne qui descendit quelques marches à leur rencontre pour dire d'un ton enjoué « Je vois que tu as des invités, Hard !» Au cas où ta maison serait trop pleine, sache que la mienne est vide. Frobisher se retourna en souriant. Il se peut que nous ayons besoin de ton hospitalité. Il y en a d'autres et ils ont fait un bien long chemin. La femme lança à Ellie un de ses regards aigus de femme, remarquant tout au semble les cheveux coupés courts, la tunique synthétique sous la veste de Destroy, les sandales fabriquées à la machine, les jambes nues. « Avez-vous l'intention de vous installer dans notre village, mon petit ?» lui demanda-t-elle. Frobisher répondit sans se compromettre, mais avec une sympathie timide et immédiate. « Ils n'ont pas encore pris de décision. » Ellie répondit « Je l'espère. » en serrant la main tendue de la femme. « Eh bien, je l'espère aussi, mon petit. Nous n'avons pas souvent des voisins aussi jeunes, » répliqua celle-ci. « N'hésitez pas, vous et votre mari. » Ellie rougit violemment en entendant ce mot archaïque et choquant. « N'hésitez pas à faire appel à nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre installation. » Elle sourit de nouveau à Ellie avant de regagner le pas de sa porte d'une démarche pesante. « On se croirait sur Terre 2, » dit Langton à mi-voix, « sauf que tout... Il a dû se produire un désastre inconcevable, » dit Brian, « par rapport au monde que le Star Wars a laissé derrière lui, leur niveau culturel retarde de milliers d'années. Même Terre 2 est plus civilisée qu'il ne semble l'être. » Cuisiner sur un feu de bois, et ces minuscules villages, et ces cités vides. « Je ne sais pas, » murmura Ellie de façon inattendue, « selon quels critères mesure-t-on le degré d'évolution d'une civilisation ? Il est possible qu'ils aient progressé d'une manière qui nous échappe, non ? La différence peut en être une de point de vue. » Brian secoua la tête obstinée. « Ils sont rétrogrades !» insista-t-il. Mais Ellie n'eut pas le temps de lui répondre car leur appareil était en vue et Frobisher les rejoignit. « Voici votre appareil, » déclara-t-il. « Avez-vous l'intention de rejoindre votre vaisseau ou vous contenterez-vous de l'appeler d'ici ?» Brian et Langton échangèrent un regard. Nous n'y avons pas encore réfléchi, dit encore Langton. Mais Brian, sans spatioporte et au moins un signal radio pour les guider, comment ferait-il pour atterrir ? Ben, je ne sais pas grand-chose en matière de réacteur atomique, dit enfin Brian, l'air soucieux. Ma spécialité, ce sont les propulseurs interstellaires. Combien d'espace leur faut-il pour se poser ? Langton semblait préoccupé. S'il le fallait, Paula et Caldwell sont, à eux deux, capables de poser le Homeward en plein milieu du labo de biochimie d'arrière-papa, qui en sent même casser une éprouvette, à condition d'avoir un signal repère. S'ils atterrissent à l'aveuglette, ils risquent d'aller droit sur le village. S'ils visent seulement dans la direction générale qu'on leur indiquerait, je veux dire. « Dans ce cas, suggéra Brian, mieux vaudrait rejoindre le vaisseau et partir à la recherche d'un bon grand désert où on pourrait atterrir à vue. »« Ce serait un problème de regagner le vaisseau, dit Ellie, inquiète. Il va faire noir dans moins d'une heure. »« Je dirais, et j'ai comme l'impression qu'on va être complètement aveugle d'ici la nuit. » Frobisher s'était retiré avec discrétion pour les laisser discuter, mais Brian répliqua « Ça ne va pas, la cervelle, Ellie. Tu sais très bien que tu peux rejoindre le jour terrestre et rattraper le Homeward. Mais alors, on ne pourra peut-être plus jamais retrouver cet endroit-ci, dit Langton, une remarque surprenante. » Et Ellie ajouta, c'est vrai, si on continue à errer autour de cette planète, qui sait si on le retrouvera ? Pour l'amour de qui s'en soucie ? Moi, dit Langton avec fermeté, d'après Frobisher, les conditions sont à peu près les mêmes partout et ce vieux bonhomme me plairait assez, Brian. Ça me plaît ici, j'aimerais qu'on s'y pose et peut-être même qu'on s'y installe. Brian les dévisagea. Tu es devenu fou ? Pas du tout, répliqua Langton. Si on a envie de faire un tour après l'atterrissage du Homeward, très bien. On a la navette, on pourra effectuer toutes les explorations qu'on voudra. On a assez de carburant pour ça, et puis, puisqu'on est là, restons-y. Brian perdit un peu de son assurance. C'était la première fois qu'un membre de l'équipage mettait en doute son jugement, même s'ils étaient nombreux à critiquer ses méthodes. Il haussa les épaules pour chasser un chagrin aussi soudain que superflu. « Bon, deux contre un, vous gagnez. De toute façon, je ne commande plus depuis qu'on a démarré les réacteurs atomiques. Arrangez ça avec Caldwell. » Par la radio. Il s'éloigna brusquement pour faire le tour de la navette. Il entendit le crépitement des échanges à la radio, mais il n'y prêta pas la moindre attention. Puis soudain, il s'aperçut qu'Ellie était près de lui. Elle levait vers lui un visage plein de tendresse. Même distrait par ses pensées irritées, Brian ne put s'empêcher de s'émerveiller devant le mystère de ses cheveux, soudain blonds sous le soleil doré. Sur cette planète-ci, le rouge était atténué et ses courtes boucles semblaient faites de pur argent. Ellie semblait très pâle, très fragile dans cette lumière nouvelle et impulsivement, Brian la serra contre lui. Elle répondit ardemment à son étreinte et passa le bras autour de son cou avec une simplicité à laquelle on ne s'y attendait pas. « Le voyage a pris fin, » dit-elle doucement. « Nous avons attendu longtemps cet instant, Brian, même si l'ordinateur nous a mal renseignés sur ce que nous trouverions ici. Embrasse-moi donc, idiot. » Il la serra avec une force étonnante et elle poussa un petit cri. « Hé, je ne suis pas encore habituée à mon nouveau poids, attention, » rit-elle. Puis son rire s'éteignit tandis qu'il penchait son visage vers le sien. Elle avait conscience du soleil qui l'aveuglait, de la fatigue physique due à l'exercice inhabituel et de la sensation de lourdeur infligée sur la pesanteur excessive. Terre 2 était un petit monde léger. Il y avait un sentiment d'urgence désespéré dans la façon dont Brian la serrait contre lui et il la garda un moment tout contre lui, puis, avec brusquerie, il la repoussa et demanda d'une voix enrouée. « Où est passé, Frobisher ? Ellie, il faut que je garde la tête claire en ce moment. Au train où ça va, on aura bientôt tout le reste de notre vie pour ce genre de choses. » Blessée, mais devinant l'appel à l'aide qui se dissimulait derrière cette façade rigide, Ellie ravala sa peine d'avoir été rejetée, se força à voir plus loin que le moment présent. Il est allé voir quelle quantité de blé a été abîmée avec Destroy. Le diable les emporte, on le leur remboursera leur blé, allez voilà. Il donna un coup de pied dans les épis, un geste d'une curieuse futilité et dit d'une voix bizarrement vaincue, les yeux à terre. Il nous faudra des mois avant d'être à nouveau en forme physique. Après tout ce temps en apesanteur, notre coordination musculaire est complètement inadaptée à une pesanteur si élevée. Tu as remarqué la façon dont marche Frobisher, comme si tout le monde lui appartenait. Le ressentiment se mêlait à l'envie dans sa voix, mais il conclut d'un ton plutôt étonné et comme s'il en avait autant qu'il en voulait. Au grand-père et à son petit-fils qui les avaient rejoints, il dit avec brusquerie, « Monsieur Frobisher, nous serions heureux de payer pour les dégâts que nous avons pu causer. »« Je ne vous en aurais même pas parlé, » dit Frobisher, et pour la première fois, quelque chose comme du respect se fit jour dans sa voix. « Mais le fait de le mentionner détonne chez vous une mentalité, dénote chez vous une mentalité honorable. Je vis dans l'abondance. Et vous ?» Vous aurez beaucoup à faire après l'atterrissage de votre équipage, mais si vous insistez pour rembourser, vous pourrez contribuer aux travaux de la saison prochaine, après votre installation. » Brian fut déconcerté, mais décida de ne pas insister et demanda à Langton qui le rejoignait, « Qu'a dit Caldwell ?»
Thank you.
Alors, ce qu'a dit Caldwell, vous le saurez lors de la prochaine émission. Je vais changer mes prévisions. Il y aura la deuxième moitié le 1er février et je décale l'émission du 1er février vers mars. C'était Brigitte Fontaine. Je ne vous ai pas dit ce que dit la quatrième de couverture sur Marion Zimmer Bradley. Cette géante de la fiction et de la fantaisie. Occupez-vous de la terre d'abord. En une seule phrase, Marion Zimmer Bradley prend de vitesse la vague verte à une époque, 1955, où nul ne la voyait venir. Elle aime les cultures archaïques proches de la nature, qu'elle trouve dans les lointains de l'espace, la planète ténébreuse, ou les lointains du temps, la Bretagne des Dames du Lac. Et elle est bien obligée de les prendre comme elles sont, patriarcales. Mais elle ne se contente pas de l'image de la femme qu'elle trouve dans les sociétés de ce type. Ses héros sont le plus souvent des héroïnes, des aventurières, des déracinées, ténébranes obligées de vivre sur Terre ou terriennes perdues sur Ténébreuse. Qui, à la technologie masculine, ne peuvent opposer que les pouvoirs mentaux dont elles sont accablées jusqu'à ce qu'elles retrouvent leur vraie famille et s'acceptent telles qu'elles sont. Un destin élargi s'offre alors à elles, communion intime des télépathes, occupation du corps d'autrui avec l'assentiment de l'autre, de l'hôte. Autre solution. Fonder une alliance comme ces Amazones libres qui choisissent de s'autodéterminer au sein même de la société patriarcale, ou triompher des difficultés de la reproduction dans l'espace en entrant en relation presque toujours positive avec des non-humains dont les corps hermaphrodites se prêtent à toutes sortes d'usages. Voilà, c'était dans la quatrième de couverture que je ne vous avais pas lu au départ, dans la collection Le Grand Temple de la Science-Fiction, chez Pocket et Marion Zimmer Bradley, Les Voix de l'Espace, c'est le numéro 5470. Il y a beaucoup de nouvelles. J'ai choisi la plus longue, c'est un peu débile, mais je trouve qu'elle est vraiment passionnante, celle-là. Elle me parle beaucoup. Donc, la prochaine émission, vous aurez la fin. Un petit dernier de Pierrick Pedron. C'était donc 50-50 New York Sessions. Allez, un petit peu de Pierrick Pedron avant le Club Ferré. Et la prochaine, la suite, ce sera le 1er février. Au revoir. Piano, c'est Sullivan Fortner. Pierrick Pedron, c'est au sax alto. Il y a Larry Grenadier à la basse et Marcus Gilmore à la batterie. Bon, je vais directement passer à l'indicatif au cillo par le poème de Frida Kahlo par Angélique Yonatou. Revoir cette fois vraiment.
Rocío en las manos, Rocío, agua del cielo, tierra mía y sol
la inmensa marea, las estrellas soles, no bajes sediento al árbol que tanto te ama, lo que fue, fue para siempre, lo que queda son las raíces que se asoman transparentes, tus flores ya dan sus colores. Se asoman transparentes, tus flores ya dan sus colores. Los labios del sueño, olvido de palabras, los dedos del viento. Soy el árbol del que eres sol. Rocío en las manos, rocío, agua del cielo, tierra mía y sol, la inmensa marea, las estrellas soles, no dejes sediento al árbol que tanto te ama, lo que fue, fue para siempre, queda son las raíces, no dejes sediento al árbol que tanto te ama.